L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce numéro 14 de L'Oz Actuali. On le commence, notre invité n'est pas encore arrivé.
Il est dans le métro, il dirait dans les radios parisiennes.
Voilà, c'est ça, on devrait le retrouver dans pas très très longtemps. Alors, bon, on va vous dire, hein, notre invité c'est Guillaume Sapin de La Nouvelle Dimension. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vous parler du festival 48 images secondes. Ça se passera dans quelques minutes. Mais avant de commencer cette émission, on vous rappelle que vous pouvez toujours la commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Loz Actuali. Au programme aujourd'hui, Eric, tu vas nous parler de cinéma, toi aussi.
C'est ça, je vais parler de cinéma, d'un film qui a reçu un prix il n'y a pas longtemps.
Très bien. Caroline, de quoi veux-tu nous parler ?
Télé.
Ah,
il y avait longtemps. Retour.
Oui, ça fait longtemps.
Ouais, c'est pour ça.
Et moi, je vous parlerai des paupiettes de mamie.
Ah oui, très voilà, très bon sujet. Voilà notre
avec les hashtags de la semaine.
Qui est sorti
voilà,
du métro.
Impeccable. Il est arrivé. On va pouvoir commencer. Impeccable. Et puis, bah, évidemment, on retrouvera la revue de presse tout à l'heure. Et donc, on va faire l'émission dans le bon ordre, finalement. Tout va bien. C'est parti. Une petite virgule et on se met en place. Bien, ben voilà, on vous retrouve. Merci d'arriver. Voilà, on sait que voilà, on est effectivement en direct. Alors, on va vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes. C'est toujours la première partie de l'interview, c'est de nous dire un petit peu qui êtes-vous.
Ouais. Eh ben, moi, donc, je suis Guillaume Sapin, directeur du festival 48 images secondes et de la Nouvelle Dimension, l'association d'éducation à l'image Flora qui organise le festival. Et puis je suis accompagné de Dominique, ma stagiaire. Bonjour. Québécoise, qui s'occupe de la communication aussi sur le festival au niveau des réseaux sociaux notamment. Et...
Voilà. Ah, très bien, on pourra parler réseaux sociaux puisque c'est une des spécialités de cette émission aussi. Alors on commence peut-être justement on fait toujours connaissance dans cette première partie d'interview. Justement, la Nouvelle Dimension, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est, comment ça a été, enfin d'où ça vient, voilà.
Oui, alors c'est une association déjà qui a repris depuis 3 ans le vidéoclub de Florac et le cinéclub. Et qui a rajouté tout un tas d'activités d'éducation à l'image, donc qui aujourd'hui est une association qui travaille beaucoup en milieu scolaire, mais hors temps scolaire aussi, donc pour les enfants, pour tout un tas d'ateliers d'éducation à l'image. Et c'est une association qui est ouverte toute l'année avec un pignon sur rue, avec un vidéoclub, donc qui est accessible sous un format un petit peu de médiathèque, de location illimitée à l'année pour les adhérents, mais tout le monde peut adhérer évidemment, un local qui est situé à Florac. Et puis ensuite, on a des activités grand public avec des projections, des conférences et le festival 48 images secondes depuis 8 ans maintenant, qui se précise depuis 3 ans sur le cinéma québécois, qui se dote d'ailleurs cette année d'un sous-titre qui est « Rendez-vous avec le cinéma québécois et la francophonie ».
Oui, puisqu'il sera question de Louisiane,
on parlera
peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Justement sur ce travail d'éducation à l'image, comment vient l'idée de faire de l'éducation à l'image sur le sud de Lozère ? Qu'est-ce qui est la motivation finalement à aller vers ce sujet-là ?
Bah, c'est peut-être aussi, avant tout, c'est une place qu'on a, que je développe depuis 10 ans avec le Ciné-Club de Florac à la base et Vidéoclub, mais de manière, on va dire, informelle. Et puis, c'est se rendre compte aussi qu'il y a une place à prendre parce qu'il n'y a pas de section cinéma, il n'y a pas de lycée en sud de Lozère, donc il n'y a pas de section cinéma, il y en a en Nord-Lozère, et du coup, pour inciter les jeunes à on va dire avant le lycée, à s'intéresser au cinéma. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de venir voir quelques films dans l'année à Cinéco. Donc on a déjà un accompagnement, on va dire, naturel par nos adhérents et les enfants de nos adhérents au niveau du vidéoclub. Et du coup, l'envie, elle a été de leur proposer d'autres choses, un accompagnement au niveau technique, théorique, sur mieux appréhender des films, par exemple, des choses comme ça.
Et vous êtes plutôt dans la découverte de l'œuvre, ou même où vous passez aussi du côté de la production, de la réalisation ?
Non, 90% des cas, ça va être la découverte théorique, soit à partir d'une œuvre lambda, soit à partir d'un courant cinématographique, histoire du cinéma, des notions qui sont adaptées aux différents âges des enfants qu'on voit. Et puis après, on fait aussi des cours du soir, où là, c'est tout public. Donc on a des retraités, on n'a pas d'étudiants, mais on a nos adhérents peuvent venir sur des thématiques. Là, cette année, à l'automne, on a fait un travail sur montagne et cinéma. L'année dernière, c'était littérature et cinéma. Il va y avoir un truc qui se prépare sur sport et cinéma. Donc l'idée, c'est une espèce de cours ouvert à tous qui donne envie de voir des films, qui donne des clés sur certaines productions, certaines réalisations. Donc on est plutôt sur l'aspect théorique. Et après, de temps en temps, on a un travail plutôt pratique. Ça va être le cas, par exemple, dans le cadre du festival, avec un atelier vidéo, avec des ados. Mais ce n'est pas tellement là-dessus, parce que cette pratique, ils peuvent la faire, on va dire, presque plus facilement aujourd'hui avec leur téléphone portable, quasiment. Donc on est là pour les accompagner à structurer la pratique qu'ils ont envie de faire chez eux le week-end, etc. Et donc, c'est plutôt structuré au niveau du scénario, de l'accompagnement d'un film, découvrir la mise en scène, tout un tas de choses.
Ok, et l'activité, sur le descriptif, on parle de comptoir culturel, donc plutôt autour de l'ex-vidéoclub, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ça reste vivant comme activité dans un contexte de VOD, etc.
C'est un enjeu, parce que de toute façon, depuis 10 ans, depuis que j'ai créé ce lieu, les vidéoclubs existent de moins en moins. Je crois qu'on est moins d'une vingtaine en France encore aujourd'hui. Donc il y a une envie de résister, et puis à la fois il a fallu trouver des solutions, d'où le modèle associatif, qui est un modèle économique qui est plus viable, puisque la personne qui est là est en contrat aidé, c'est déjà plus simple pour nous économiquement. Mais c'est aussi de proposer d'autres choses. Et donc les gens qui viennent louer des films ne viennent pas que louer, ils viennent aussi voir une expo, ils viennent à des apéros, on va faire tout un tas de développés de ciné-rencontres qui ne sont pas forcément développés autour d'une projection, mais autour d'extraits, ça peut être proposer des coups de cœur, tout un tas de choses. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de créer un lieu qui soit un lieu d'échange et de partage. Pour nos adhérents avant tout, mais comme je dis, tout le monde peut adhérer. Donc c'est les adhérents, puis les gens qui ont envie de les accompagner, et puis peut-être des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de mouvements de population en Lozère et en sud de Lozère, avec des gens qui sont là pour des périodes courtes. Et c'est des gens qui sont peut-être plus habitués à avoir d'autres animations, d'autres événements culturels là où ils étaient. Donc ils sont contents aussi, même pendant la période où ils sont là, de trouver ce type d'animation. Donc toutes les semaines, on a des animations qui donnent envie de venir dans le lieu. Puis une fois qu'on est dans le lieu, généralement, les gens louent des films. Donc oui, on a encore... Je dirais qu'on a plus d'adhérents et de personnes qui louent que les deux dernières années d'activité commerciale que j'avais en 2013-2014.
Avec un renouvellement des collections offertes,
tous les mois. Les mois, une quinzaine de films supplémentaires qui soient autant des nouveautés que des classiques. Donc c'est en lien beaucoup avec notre actualité d'éducation à l'image, mais aussi en lien avec l'actualité cinématographique. Et puis il n'y a pas forcément une volonté d'avoir les choses tout de suite, donc des fois on a des films au bout de quelques mois. On est beaucoup calé sur l'actualité, sur la programmation de Cinéco, qui elle est déjà en retard par rapport à l'actualité cinématographique. Donc on a un renouvellement, d'une par an d'environ 150 à 200 films.
Donc aujourd'hui, c'est significatif,
et aujourd'hui on a un peu plus de 4000 films dans le catalogue, donc de toute façon quelqu'un qui vient n'arriverait jamais au bout.
Ok, bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour de la structure. Alors on va rentrer dans le détail dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai oublié des choses
sur
la structure. on rentrera un petit peu plus en détail dans ce festival. Mais peut-être avant de rentrer dans cette édition, 2017, comment cette idée du festival est venue? Ça fait combien de temps? Dites-nous un petit peu plus sur l'idée du festival, peut-être moins dans l'édition de cette année, mais dans le concept. Et comment ça se connecte avec le reste des activités?
D'un point de vue historique, le festival a été créé par le Ciné Club, qui à la base avait créé un événement qui était les rencontres cinématographiques de Lozère. Donc l'idée, c'était de créer un événement commun avec les autres ciné-clubs et cinémas en Lozère, ce qui avait fonctionné pendant quelques années. Et puis évidemment, très rapidement, toute l'énergie était mise sur Florac et beaucoup moins sur les autres pôles, même s'il y avait des motivations. Il y a l'animation, on va dire, se concentrer essentiellement à Florac. Donc il y a 3 ans, on a décidé de concentrer le festival uniquement à Florac, de lui donner un titre qui s'appelle Festival 48 images secondes. Titre qui vient du 48 du département de la Lozère, comme chacun sait, et qui donne un clin d'œil à la cadence cinématographique à la base 24 images secondes, mais qui apporte quelque chose de supplémentaire. Et le festival à la base était donc des rencontres avec un historien du cinéma qui vient sur un sujet donné apporter des conférences et des analyses filmiques sur différents films. Et puis il y a 3 ans, quand on a donner cet axe sur le cinéma, au départ sur les histoires du cinéma québécois, on s'est rendu compte qu'on avait des possibilités de recevoir des invités québécois, des avant-premières aussi. Et puis on a donné notre couleur au festival et ça fonctionnait. On a multiplié la fréquentation par 3. Donc on a décidé de continuer là-dessus, sur cette cinématographie québécoise, parce qu'on y était déjà attaché pour d'autres raisons, mais aussi parce que Florac est jumelé avec une ville au Québec, donc ça donnait un ancrage territorial intéressant pour la commune. Et puis parce qu'on développait de plus en plus de relations avec des institutions québécoises et des invités intervenants. Et jusqu'à arriver à cette année avec un partenariat avec les Rendez-vous du cinéma québécois, qui est un gros festival de cinéma à Montréal. Donc c'est un festival qui a évolué, on va dire, d'année en année pour proposer à la base quelque chose autour de l'histoire du cinéma et aujourd'hui quelque chose sur l'actualité, mais restant quand même des films qui sont quasiment et qui resteront inédits en France. Donc on est sur quelque chose où les festivaliers qui viennent peuvent voir les films quasiment que là, en ce qui concerne la cinématographie québécoise évidemment, mais aussi en ce qui concerne les rencontres avec les invités, toute l'animation qu'on développe au fil des ans.
Dominique, vous pouvez nous dire un petit mot du cinéma québécois, justement, comment ça se passe chez vous?
Oui.
Il y a des ciné-clubs, il y a des salles encore, comment ça se passe?
Je dirais qu'on fait face à peu près au même problème que surtout les salles indépendantes, donc les exploitants de salles, même s'ils n'aiment pas toujours ce terme-là, exploitants. Les artisans du cinéma, c'est pas facile à cause justement visionnement en ligne, les jeunes, puis je m'inclus là-dedans comme étant une jeune. On regarde beaucoup en ligne Netflix, en tout cas au Québec, c'est assez fort. Surtout qu'on retrouve des émissions qui sont à la télé, par exemple, on va les retrouver sur des plateformes web comme Netflix. Pour moi, l'expérience ici à Florac, en Lozère, dans les Cévennes, de voir un club comme La Nouvelle Dimension, avoir une collection aussi importante, mais aussi rassembler des gens, puis de même avoir une 8e édition d'un festival de cinéma québécois, c'est surprenant, c'est impressionnant, c'est beau à voir, franchement. Pour connaître bien la programmation de cette édition-ci, les autres moins, mais on a vraiment des réalisatrices, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'invités, on va y revenir, j'imagine, là-dessus, mais des talents qui sont nouveaux, puis qui sont très actuels, en fait. Même peut-être à l'avant-garde, à mon avis, de ce qui se passe dans le cinéma québécois.
Donc ça veut dire que c'est quand même un cinéma très vivant.
Oui, c'est clair. On a beaucoup d'aide, bien sûr, des institutions. Donc ça aide les subventions, surtout parce qu'on est des francophones du Canada. Donc il y a des avantages à parler français. Pour le rayonnement aussi, beaucoup d'ententes avec la France. Donc il y a quelque chose, il y a un lien privilégié entre ces deux pays-là. Mm.
Très bien, on va en revenir plus en détail à ce festival 48 images secondes, rendez-vous avec le cinéma québécois et la francophonie. On va donner les dates parce que je crois qu'on ne l'a pas encore fait, donc du 13 au 17 avril à Florac, Trois-Rivières, il faut le dire maintenant.
Un nom très québécois maintenant.
Hein. Oui, c'est ça. on va faire un petit passage, on va rester dans le cinéma avec la chronique d'Éric. Bon, là, le jingle ne part pas, tout va bien. Éric, c'est à toi.
Donc oui, aujourd'hui dans notre émission, on parle de cinéma. Donc là, je vais parler d'un film qui amène aussi, lui, qui a amené pas mal de débats, qui en amène encore. Donc je l'ai vu récemment en DVD après en avoir entendu souvent parler l'année dernière. Donc il s'agit du film Merci Patron de François Ruffin. Et comme ça n'est pas tout à fait un film à suspense, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vais vous spoiler un peu l'intrigue. Alors, déjà, ce film, c'est pas une fiction, mais c'est un film un peu d'un autre genre. C'est difficilement identifiable d'ailleurs, il ne rentre pas dans les catégories habituelles. Le plus juste serait sans doute d'en dire qu'il est un film d'action directe ou d'action concrète. Alors pour ce film d'action concrète, ce n'est pas l'image qui est primordiale. Alors ne vous attendez pas à avoir des effets spéciaux dernier cri ou des cascades exceptionnelles. Là c'est plutôt l'intrigue et les acteurs qui importent. Alors déjà on ne fait pas plus local que le cas Clure. Et on ne fait pas plus global non plus. Car les Clures offrent un concentré, un résumé presque complet du système. Pourtant, contrairement à bon nombre de ceux qui ont traité de la condition salariale de notre époque néolibérale, le film de François Ruffin n'a aucune visée d'analyse. Ruffin, il ne veut pas juste montrer la situation des salariés d'excès, il veut en faire quelque chose de cette situation. Alors déjà, je vais vous faire une petite présentation des principaux protagonistes. Alors déjà, il y a Serge Clure. Alors lui, il joue son propre rôle de père de famille, ancien ouvrier d'une société de confection industrielle, filiale du groupe LVMH. Alors je ne crois pas qu'il ait suivi des cours de comédie, mais dans son rôle d'homme du peuple, qui a perdu son emploi après que son entreprise a été délocalisée en Pologne, ouvrier au bout du rouleau, prêt à foutre le feu à sa baraque dont il n'arrive pas à payer les traites, il est parfait. Donc un rôle sur mesure. Alors Jocelyne Clure, son épouse dans la vie et forcément dans ce film, est tout aussi crédible. Alors, ancienne ouvrière du textile, elle raconte ses difficultés pour nourrir sa famille, pour se chauffer, pour faire tourner sa maison avec 400 euros par mois. Alors ensuite, il ne faut pas oublier les seconds rôles, au moins aussi importants. Alors, Bernard Arnault, pour la première fois sur grand écran, mais qui joue son propre rôle de patron à la perfection. Alors il est comme dans la vie, soucieux de son image, mais sans scrupules. On le voit apparaître lors d'une assemblée générale, de son groupe, si proche de ses actionnaires et en même temps si éloigné de ses salariés, c'est un bonheur. Alors, d'autres seconds rôles du même film sont également formidables, notamment un ex-commissaire des renseignements généraux qui vient négocier le silence des Clures avec une arrogance et une manière de les prendre pour des idiots qui n'est pas sans rappeler d'autres films cultes comme L'arroseur arrosé ou Le dîner de cons. Bon, alors, ce film fait également dans la modernité, en nous initiant à cette nouvelle mode culinaire, le vegan. Avec l'adoption de saines résolutions diététiques, on peut même aller jusqu'à parler de rationnement avec leur menu spécial Noël composé d'une seule tartine de fromage blanc. Bon. Pour en revenir à l'intrigue du film, il faut savoir qu'en 2008 déjà, Ruffin avait fait débouler les licenciés à l'Assemblée Générale des Actionnaires de LVMH. Mais cette fois, ce sera l'attaque frontale. Clure Ruffin contre Arnaud. L'époque néolibérale, pardon, enseignant que si l'on ne demande pas avec ce qu'il faut de force, on n'obtient rien, Clure Ruffin va demander avec ce qu'il faut de force, en l'occurrence 45 000 euros de dédommagement pour réduction à la misère, plus un contrat à durée indéterminée quelque part dans le groupe pour Serge Clure. Et c'est à ce moment-là que le film passe d'un coup dans une sorte de quatrième dimension. Et nous avec. Car le puissant se met à trembloter. Bon, c'est comme le verbe trembler, mais juste un peu. Bon. Je ne peux pas raconter ici la série des péripéties qui y conduisent, mais au moins cette scène qui voit donc cet ex-commissaire des renseignements généraux, devenu barbouze privé dans l'empire du sac à main, négocier avec les Clures devant une caméra cachée, alors que lui cherche partout un magnétophone sous une chaise, et devenir quasi hystérique à l'évocation de Fakir. Bah, que la campagne de presse passe par Le Monde, Mediapart, France Inter, France Inter, pardon, il s'en fout. Mais Fakir, et c'est une comédie improvisée façon Molière chez les Picards. Fakir, on le menacerait de tout envoyer à 48 FM ou à Midi Libre, il continuerait de glapir comme un possédé, Fakir. Mais pourquoi Fakir qui est tout petit? Parce que, explique le commissaire, c'est les minorités agissantes qui font tout. Et si les clures, coachées par le camarade Ruffin, ont ainsi réussi à négocier avec Bernard Arnault, c'est aussi parce qu'en face, on a tremblé, et pas trembloté. Bernard Arnault s'affale. Je me pince. C'est simple, on ne peut pas y croire. Or, tout est vrai. C'est l'opprimé qui, pour une fois, gagne face à l'homme aux écus. Bon, on se doute que c'est un événement rare, mais je l'ai vu, de mes propres yeux vu. Alors, il faut y croire. Alors, déjà, ce film permet de faire une première annonce. La lutte des classes n'est pas morte. Et comme on le sait, le problème avec les morts mal tués et mal enterrés, c'est qu'ils reviennent. Ici, les morts font tout de même 25% de la population active, auquel ajouter 25% d'employés. Une sacrée armée de zombies. Et la promesse de nuit agitée. Et il faut croire que les spectres gardent le pouvoir d'en terroriser encore quelques-uns, si l'on en juge par l'empressement de Bernard Arnault à dépêcher ses sbires de la sécurité pour négocier contre le silence des clures. Ah oui, et j'avais oublié de mentionner un autre second rôle de ce film. Le secrétaire général du groupe LVMH, hiérarque d'un grand parti politique, mais on n'a plus trop le droit de parler de politique maintenant, donc je ne mentionnerai pas le nom, est convaincu que le progressisme consiste essentiellement en la progression des dividendes pour les actionnaires. Il est à lui seul, en fait, un résumé sur pattes de toute l'histoire de la politique, doublé d'un fameux cornichon. Vous verrez pourquoi en regardant le film. Mais alors, quid de 10, de 100, d'une armée de clures Ruffin, et puis décidé à obtenir autre chose que la simple indemnisation de la misère? Et si l'espoir changeait de camp? Si le combat changeait d'âme? Donc voilà, même le New York Times n'a pas hésité à comparer François Ruffin à Michael Moore, auteur de documentaires à succès comme Roger and Me, je prononce pas très bien, qui relate la suppression de 30 000 emplois chez General Motors à la fin des années 80. Et d'estimer que Ruffin a eu plus de succès que son aîné américain en obtenant la visite d'un représentant de LVMH pour convenir d'un accord. La classe américaine, ce film. Bon, j'avais compris que François Ruffin voulait incarner dans le film le rôle d'un Robin des Bois des temps modernes. Et au cas où nous ignorions qui était Robin des Bois, un petit garçon se charge doctement de nous l'expliquer. Mais je n'avais pas compris tout de suite qu'avec ce film, il nous rappelle nos compromissions personnelles, notre servitude volontaire pour obtenir les miettes que veulent bien nous laisser les gens d'en haut qui, eux, font la fête du soir au matin. Allez, juste pour rappel, le film Merci Patron a reçu le César de meilleur documentaire car la catégorie film d'action concrète n'existe pas encore.
Merci Eric pour ce...
Donc on le trouve en DVD maintenant.
On le trouve en DVD, oui.
Peut-être à la nouvelle dimension.
Aussi la nouvelle dimension.
Il y a eu beaucoup de soirées quand même. Hein. C'est un film qui a permis de participer au mouvement social.
C'était contre la loi travail de l'année dernière, au début de Nuit Debout.
Enfin, il y a eu énormément de soirées, de débats avec ce film.
C'est ça, il donne l'espoir de croire que c'est possible. Oui.
À 20 jours d'un certain événement, c'est quand même...
Alors, je précise, parce que ça a été dit, qu'effectivement, compte tenu de la période de diffusion de cette émission et de sa rediffusion en période d'égalité du temps de parole, nous n'avons pas la possibilité de citer les candidats ni leurs programmes pour des questions de respect des règles qui nous sont imposées par le CSA. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a effectivement une petite suspension politique en ce moment dans notre liberté peut-être de ton. C'est le moment de la première coupure musicale de cette émission. Alors normalement c'est le choix de l'invité, mais comme vous l'avez pas posé et puis qu'on n'a pas eu trop le temps de s'en parler, on vous fait une petite proposition. Il me semblait que ça pourrait vous plaire.
Départ, il y en a qui avaient proposé Céline Dion quand même.
Mais là le choix, je dois dire, en tout cas je le vois devant moi, je vais pas le nommer, je vais te laisser présenter, mais
non, faites-le, bon. C'est bien.
Alors c'est, oui, allez-y.
C'est Claude Pelgag avec la chanson Les ferrofluides des fleurs.
Voilà, c'est sur l'album L'Étoile Thoracique, et Claude Pelgag sera à Langogne à Festivalier cet été. Alors ça, c'est le vendredi soir. Soyez au rendez-vous aussi de ce festival très sympathique de chansons françaises cet été organisé par Festivalier. Vous savez que bah, vous me retrouvez avec Olivier tous les dimanches soirs pour parler chansons.
Organisé par les chansons. Fans d'Arel.
Et voilà, voilà. Et donc voilà, c'est tout récent puisque la confirmation est toute récente. Notamment, on attendait la réponse de Claude Pelgag pour savoir si
la fiche est apparue hier soir sur les réseaux sociaux.
Voilà. Et les dossiers de presse sont dans les rédactions. Allez, c'est parti. On écoute ces Ferroflies de fleurs. Deuxième partie de cette émission et on retrouve nos invités évidemment pour parler de ce festival 48 images secondes. Donc on a dit dédié au cinéma québécois mais aussi à la francophonie finalement.
Oui.
Alors avec cette année, un choix de mettre à l'honneur la Louisiane.
Oui, en fait on a... Ça fait 2 ans qu'on essaie de trouver comment ne pas perdre le thème qu'on avait chaque année avant. Et du coup, l'an dernier, on était sur les Inuits, qui ne sont pas forcément francophones. Mais, et puis, je ne sais pas pourquoi, naturellement, on s'est dit on a glissé les choses sur la francophonie parce que ça permettait d'une ouverture aussi culturelle, plus que cinématographique, sur les liens qu'entretient le cinéma québécois avec d'autres thématiques francophones, mais aussi que nous pourrions entretenir, etc. Et du coup, ça permet chaque année de présenter différents pays, différentes cultures, et de pas forcément proposer cette thématique francophone sous l'aspect uniquement cinématographique, mais aussi musical, culinaire, tout ce qu'on veut, selon les possibilités, évidemment, des invités, des techniques et autres. Et donc cette année, c'est un concert avec Moranque et John Band, qui sont basés du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc on avait la possibilité de faire venir un groupe de musique cajun, qui vient de pas très loin, et d'apporter une vraie touche musicale qui vient compléter tout, la plupart des films que nous avons d'André Gladue, qui est un cinéaste, lui, québécois, mais qui a fait beaucoup de films sur la Louisiane et notamment sur la musique. Donc ça faisait une belle promenade, on va dire, musicale en Louisiane, découverte de la culture des Cajuns et des Créoles, puisqu'il y a deux populations francophones en Louisiane, de comprendre aussi l'histoire, leur histoire, etc. Et puis, au fil des ans, développer cette thématique francophone avec, comme je disais, d'autres pays, d'autres cultures. Et à chaque fois, on venait en croiser le cinéma québécois avec ça, puisqu'on a peut-être plus de mélange culturel au Québec et à Montréal, et donc dans le cinéma, que nous aurions en France. Je dis peut-être parce que ça reste encore à prouver. Mais en tout cas, il y a un beau mélange qui fait qu'on peut avoir des films québécois qui soient issus d'une certaine immigration. Je pense à Haïti, je pense à d'autres, même en sud-est asiatique, etc. On peut avoir, on a déjà des filmographies de cinéastes québécois qui sont originaires d'autres parties du monde. Donc ça permet de travailler cette thématique. Donc c'est pour ça qu'on est. On s'est concentré de manière générale sur la francophonie, mais ensuite, chaque année, préciser et mettre en avant une thématique à l'honneur.
Alors, quels vont être les rendez-vous de la semaine ? Enfin, du jeudi au lundi.
Oui, 5 jours de cinéma québécois. Les principaux rendez-vous, ça va être... nous, en fait, c'est surtout qui on met à l'honneur. Donc, ça va être une rétrospective d'André Gladue, qui était un cinéaste... historique au Québec, mais historique pour le volet Office national du film du Canada, qui est une institution québécoise qui a produit en son temps énormément de documentaires et de courts-métrages, avec des producteurs qui faisaient partie intégrante de cette institution, dont André Gladue, et qui a parcouru depuis 40 ans toute l'Amérique du Nord, essentiellement, à la rencontre de la musique francophone en Amérique. Il a fait toute une série de documentaires qui s'appelle Le son des Français d'Amérique. Et donc c'est quelqu'un qui a à la fois une vraie expérience de terrain en termes de découverte de la culture, mais aussi documentaire, et qui fait encore des films aujourd'hui, et qu'on reçoit pour une rétrospective, on va dire, intégrale de sa partie louisianaise, et une belle rétrospective de sa filmographie, puisqu'on a quasiment 70%, je crois, de ses films qui sont programmés, avec une dizaine de projections alors pendant le festival, mais aussi en amont et en aval, puisqu'il y aura des projections à Marvejols le mardi 18.
Donc le partenariat avec les autres
cinéclubs reste encore, encore d'année en année, donc ça se fait en fonction des opportunités. Là, ça collait bien au niveau des dates, par exemple, donc c'est le club de Marvejols est toujours motivé pour ça. Et donc une rencontre rétrospective avec André Gladue. Ensuite, on fait chaque année un travail aussi de présentation de ce qu'est le cinéma québécois et du coup de ses acteurs. Et cette année, on a choisi de faire un focus sur Spira, qui est une coopérative de production de courts-métrages en région. Donc ils sont basés à Québec, la ville de Québec, et produit des courts-métrages essentiellement autour de avec des thèmes forts qui peuvent être l'égalité homme-femme, qui peuvent être l'adolescence, la sexualité, tout un tas de sujets qui sont importants pour la société, on va dire, et eux, en tout cas, les mettre vraiment en avant. Et on va recevoir la productrice de Spira, la directrice, et deux réalisateurs des 7 courts-métrages qu'on va proposer. Donc ça permet aussi de comprendre que le cinéma québécois n'est pas uniquement ni des grosses productions qui, on va dire, vont être plutôt du côté USA, ni que des films indépendants qui vont être apparentés à nos films indépendants, à RSA, à nous, mais aussi que le cinéma québécois c'est plein de choses. L'an dernier, on avait fait un gros travail sur Wapi Koni Mobile, qui est un studio ambulant de réalisation audiovisuelle pour les Premières Nations du Québec. Cette année, c'est Spira. L'an prochain, ça sera autre chose. Donc voilà, un gros focus sur Spira avec les différentes rencontres. Et puis, ensuite, on a Martin Bureau, qui est un artiste pluridisciplinaire, pardon, qui vient présenter ses films, mais aussi une conférence sur sa démarche artistique. Et lui fait d'autres expositions, d'ailleurs, en France, à la suite du festival. Ensuite, évidemment, des avant-premières et des premières françaises de cinéastes québécois qu'on choisit un petit peu en fonction de leur filmographie, mais aussi de leur actualité, des choses intéressantes qu'on pourrait proposer au public, puisque l'idée, c'est plus de montrer la démarche artistique. Donc un réalisateur vient généralement pas forcément que pour un film, mais va présenter son dernier film, puis aussi éventuellement son précédent, voire un court-métrage. C'est le cas, par exemple, de Chloé Robichaud, qui fait la soirée d'ouverture avec son film « Pays ». Et qui vient présenter aussi Sarah préfère la course, qui avait été présentée à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2013, et un de ses courts-métrages qui était en sélection officielle aussi à Cannes la même année, je crois.
Comment vous avez tous ces contacts?
Ben, en fait, ça se fait un petit peu naturellement au fil des ans, parce qu'on travaille, et le milieu du cinéma québécois est quand même un petit milieu. Une partie des contacts viennent par mon coprogrammateur Daniel Racine, qui est animateur du festival, qui vient donc depuis 3 ans animer le festival, tout ce qui est jeux de questions-réponses et table ronde. Et lui anime une émission de cinéma déjà hebdomadaire à Montréal et depuis plus de 10 ans maintenant. Donc reçoit beaucoup de cinéastes québécois, mais pas que. Et les contacts se font beaucoup plus facilement que sur des cinéastes français, je veux dire sur des cinéastes très connus en France, il est beaucoup plus facile. Et puis ensuite, il y a une présence et donc ce partenariat dont j'évoquais rapidement tout à l'heure avec les rendez-vous du cinéma québécois qui est importante. C'est donc j'y vais en tant que programmateur à ce festival qui a lieu fin février, programmé pour l'année suivante. Donc, c'est-à-dire que là, j'étais il y a un mois pour programmer pour l'année prochaine. Mais c'est l'occasion aussi de rencontrer directement les réalisateurs ou les potentiels invités. Et comme la culture québécoise est différente de la nôtre, c'est-à-dire que les gens se tutoient beaucoup plus facilement, les contacts s'échangent beaucoup plus facilement. Du coup, on arrive à rentrer en contact très rapidement. Et puis ensuite, il y a le bouche à oreille, ce qui fait que tous les invités qu'on a reçus l'année dernière et l'année d'avant continuent de faire la belle promotion de notre festival. Et aujourd'hui, on a des invités qui veulent venir. Donc c'est le cas de cette année. On a beaucoup d'invités. Ce n'était pas forcément un choix à la base. On a 5-6 invités qu'on souhaite faire venir. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui souhaitent venir. Donc on fait tout pour les accueillir. Et donc là, cette année, on a, je crois, 5 invités qui ont demandé à être présents sur le festival. Et grâce aux merveilleuses collaborations qu'entretiennent la France et le Québec, on arrive à financer l'intégralité des déplacements des invités. C'est pas sur nos fonds propres qu'on pourra le faire. Donc voilà, par effet boule de neige, on arrive à rentrer facilement en contact. Après, il y a des cinéastes dont on connaît, c'est-à-dire qu'on est déjà en amont sur bien avant même des fois la pré-production d'un film. On sait qui va tourner un film cette année. Il n'y a pas 36 000 films qui tournent par an, en tout cas ce qui concerne la fiction au Québec. Donc on sait déjà qui tourne un film cette année, à quelle période le film va sortir, et du coup potentiellement qui pourrait être un invité pour l'année suivante. Après, il y a une question de calendrier, de disponibilité qui rentre en jeu. Mais disons qu'on programme le festival avec quasiment plus d'un an d'avance. Et ce qui fait que ça permet de travailler toute l'année avec l'invité potentiel. Et puis des fois, ça ne marche pas. Là, on a Denis Côté. Ça fait 2 années de suite qu'on n'arrive pas à l'inviter pour des questions de calendrier. Mais lui est au courant. Il sait que la porte est grande ouverte. Denis Côté, c'est un cinéaste québécois qui fait pas mal le tour des festivals dans le monde, mais essentiellement des festivals. Et donc, il connaît le festival de réputation. Mais puis, le jour où ça pourra se faire, ça se fera. Et puis après, on a des coups de cœur. Là, par exemple, j'ai vu un film à Montréal qui, en toute logique, devrait se retrouver en 2018 au festival pour différentes raisons, pour la qualité du film, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour la démarche artistique. Et puis, en plus, avec ça, il y a toute la production du film qui va avec, le réseau. Si je reviens sur Spira, qui est cette coopérative de production, on a 3 invités sur Spira. Et ces invités ne viennent pas uniquement pour leur travail qu'ils ont fait avec Spira, ils viennent aussi pour d'autres choses. Sur des tables rondes, sur d'autres réalisations qu'ils ont fait en dehors. Donc,
mais donc, chaque film qui est présenté, il y aura un intervenant québécois.
Mmh. Oui, on a uniquement les 3 films rapport avec samedi. Ouais. Et même samedi matin, on a quand même un invité. On n'a que 3 films sur lesquels on n'a pas d'invité, sur les 30 films du festival. Il y a les courts-métrages, on va dire on a 12 invités qui viennent parler de un peu plus de 20 films programmés. Donc oui, on a un film, un invité quasiment cette année. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est pas forcément le cas chaque année. Mais là où on n'a pas d'invité, on a quand même quelqu'un qui vient animer le débat. Donc là, Daniel Racine, qui lui connaît très bien le cinéma québécois, qui va venir en parler. Et si je prends un exemple tout bête sur la démolition familiale, un documentaire qu'on présente le dimanche matin, là c'est un coup de cœur. Donc là c'est nous qui, enfin tous les autres, c'est des coups de cœur aussi, mais là on n'a pas d'invité, donc c'est à nous aussi d'arriver à faire venir le public sur un film quand on n'a pas d'invité dessus, mais on ne choisit pas un film qu'on n'a pas envie de programmer.
Alors, ça veut dire qu'après chaque projection, il y a un temps d'échange ?
Toujours.
Toujours.
Oui, toujours, hormis peut-être un film ou deux sur lesquels il n'y aura pas de débat, parce qu'il n'y a pas d'invité. Mais sinon, on a toujours une demi-heure d'échange avec le public, parce que le réalisateur est là. Déjà, il se déplace depuis le Québec pour venir. Oui. Sur nos 12 invités, il y en a 10 qui viennent que pour le festival. Donc, c'est quand même aussi un honneur de les recevoir. Et généralement, le public est très réceptif à ça. Et il a envie parce qu'il sait que s'il ne leur parle pas maintenant, il ne leur parlera pas forcément plus tard. À ceci dit, les invités sont là pendant les 5 jours du festival, la plupart. Donc des fois, on les voit aux projections, puis des fois, on les voit aussi un peu en off. Au moment des repas, ils sont là à Florac pendant 5 jours. Donc c'est très facile de les rencontrer. Mais il y a toujours un moment de débat. Il y a donc la soirée d'ouverture qui est le jeudi 13 avec une présentation de tous les invités. Succincte, mais qui permet aux festivaliers présents de découvrir un petit peu qui on reçoit. Et puis ensuite, on a 3 projections par jour, on va dire, avec invités. Donc la plupart des films, comme je disais, en avant-première, ou voire en première française, voire même en première internationale. Ça veut dire que c'est la démolition familiale. C'est la première fois que le film est présenté en dehors du Québec. Depuis sa sortie. Donc nous, on est aussi ravis d'être les premiers à présenter ces films-là. Et puis ensuite, on a des films qui sortiront en France par la suite. Et du coup, là, on présente les films en première française ou en avant-première, s'ils ont déjà présenté dans un festival ou deux. Mais du coup, c'est quand même une des belles avant-premières parce que souvent, les films sortent 6 mois, voire un an plus tard en France. On a beaucoup de retard. Un calendrier qui est très, très... étiré entre la première montréalaise et le film quand il sera en France.
Et alors, on sera en pleine période de vacances. Est-ce qu'il y a une programmation pour le jeune public ?
Eh bien, non.
Ah zut !
Alors, ce n'est pas forcément un choix stratégique. C'est, déjà, quand on fait la programmation, on n'a pas toujours des films jeune public. Les films...
Ce que vous avez déjà eu fait ? Hein, l'année dernière,
bien sûr,
l'après-midi, oui. Un peu dédié.
On essaye chaque année parce que
un jeu de piste.
Oui, alors il y a le foyer rural qui propose des animations, notamment un jeu de piste le vendredi après-midi. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y aura une rencontre d'ailleurs d'André Gladue avec des jeunes du foyer rural. Il y aura une rencontre d'une des réalisatrices de Spira avec des jeunes du collège. Donc il y a des animations qui sont faites, mais dans des domaines entre guillemets privés, associatifs. Ouais. Mais on n'a pas réussi à programmer cette année de films jeune public. Alors, pour des raisons de calendrier de films, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de films qui se présentaient, où on s'est dit naturellement, c'est ça qu'il faut qu'on programme. Mais aussi parce que, déjà, le cinéma québécois, il y a assez, finalement, par rapport à la France, peu de films qui sortent. Il y a beaucoup de films américains. Donc, le but n'était pas. On avait une volonté, pendant un temps, de présenter, par exemple, Bernard et Bianca, qui se passe en Louisiane. Donc on avait ce rattachement-là. Mais très rapidement, on se retrouve confronté à... si on présente ce film sur lequel on n'a pas d'invité, en plus Bernard Bianca, ça va être Disney, les droits vont être relativement chers, etc. Est-ce que c'est un choix de programmation important ? Et puis il y a un autre facteur important à Florac au moment des vacances de Pâques, et notamment du week-end de Pâques, c'est la fête foraine, qui reçoit généralement beaucoup d'enfants. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va essayer de concurrencer la fête foraine pour peu qu'il fasse beau ? On va avoir personne dans la salle. Donc c'était un choix de se dire, on ne va pas avoir de film pour enfants cette année, mais ils ont d'autres alternatives d'animation. Mais c'est vrai qu'on essaye, on a tous des enfants dans l'équipe, nous les premiers, on essaye de leur proposer des choses. Mais ça s'est fait comme ça cette année, ça ne veut pas dire que c'est un choix volontaire et encore moins politique.
Alors, je vois qu'il y a aussi des différentes animations qui sont proposées dans le programme. Je lis un studio éphémère, une librairie éphémère. Alors, si j'ai bien compris, il y a des médias associatifs amis qui sont partenaires. Hein. Radio Bartas et Télédrive, c'est ça ?
Tout à fait. Bah, déjà, parce qu'on travaille toute l'année ensemble. C'est une émission qu'on fait depuis la première édition du festival avec Radio Bartas, puisqu'on avait notre émission de cinéma à l'époque, là-bas. Télédrive est venu se rattacher naturellement, et puis fait plein de capsules vidéo. On l'appelle éphémère parce qu'il va être dans les studios, on va être déplacé dans les locaux de la salle du conseil municipal à la mairie. Pendant les trois premiers jours du festival, et ensuite vont revenir dans les studios de Radio Bartas. Et c'est une émission qu'on fait chaque année qui permet de donner la parole à nos invités de manière autre que pendant les séances de films. Et puis cette année, l'émission, c'était le calendrier dernier, mais c'était dans le hall de la Jeunette Verte, c'était un peu plus compliqué. Là, c'est une émission qui est ouverte au public. Donc le public peut, entre midi et deux, entre 12h30 et 13h30, jeudi, vendredi, samedi, venir écouter l'émission en direct, mais aussi poser des questions. Il y aura un temps de parole qui sera proposé au public. Cette émission, elle sera diffusée en direct sur les ondes de Radio Bartas, mais aussi sur Internet, en vidéo, filmée grâce à Télédrive. Et puis la librairie éphémère, ce qu'on avait fait l'an dernier déjà avec la lorgnette, c'est qu'elle propose une table thématique avec autour des films qu'on programme. Donc ça va être de la littérature québécoise évidemment, mais aussi la Louisiane. Littérature québécoise, je pense notamment au livre de Nelly Arcan, dont on programme la veille Nelly, qui est un biopic sur cette écrivaine québécoise qui s'est suicidée très tôt dans sa carrière, en tout cas, parce qu'elle a fait quatre livres, je crois. Et le biopic, lui, est une fiction qui imagine les différentes vies qu'a pu avoir Nelly Arcan. Donc on a une seule actrice qui joue quatre personnages différents, au final, qui sont censés imaginer ce que Nelly Arcan avait pu être. Et du coup, pour les gens qui ont pu voir le film la veille, pourront retrouver ses écrits le lendemain sur la librairie. On a des tables rondes. Deux tables rondes, une sur le cinéma qui s'appelle le cinéma québécois au féminin, qui est dont le titre on l'a piqué à un livre qui sera vendu sur place aussi, qui vient de sortir ou qui sort en ce moment où on se parle d'ailleurs, au Québec, sur le cinéma québécois au féminin, qui est des entrevues avec des cinéastes sur leur position par rapport à notamment une volonté institutionnelle d'arriver à certaine égalité qui peut être vue positivement ou négativement selon les cinéastes. Je prends un exemple tout bête, la SODEC, qui est l'équivalent du CNC au Québec, vient d'imposer, je crois que c'est la SODEC, ou Téléfilm Canada peut-être, vient d'imposer pour un cinéaste qui voudrait proposer une boîte de production qui voudrait proposer deux films dans l'année à faire financer, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit réalisé par une femme. Ce qui peut proposer un problème logistique, c'est pas. S'ils ont des œuvres intéressantes à faire financer, elles sont pas forcément réalisées par des femmes. Donc c'est ce type de questions qui vont être posées, soumises en tout cas. Et puis le lendemain, c'est sur le jeune cinéma québécois. Donc on va avoir des cinéastes qui vont être là pour leur premier film, dont Éric Boulian, qui vient en tant que scénariste du film Prank, qui est un film pour ados sur l'adolescence. Très drôle, qui sera présenté en séance de minuit. Et lui, particulièrement, on va parler de lui en tant que jeune cinéaste ou scénariste, quelle est sa place dans le cinéma québécois aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'événements gratuits en dehors des projections, qui fait que tous les jours, quelqu'un qui voudrait se balader sur le festival pourrait participer de près ou de loin à la rencontre avec nos invités.
Alors, pour avoir toutes les infos sur Internet, pour tous nos auditeurs qui ont, je pense maintenant, complètement envie d'aller découvrir tout ça, comment on fait, comment on retrouve toutes les infos
C'est Internet, évidemment, www.48imagessecondes.fr. Seconde, pas de S, très important. On est aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Si vous voulez nous suivre, vous êtes plus que bienvenus. On utilise le hashtag 48images. Avec un S, et aussi le hashtag Cinéma Québécois sur Instagram, Twitter et même Facebook.
Très bien.
Et puisqu'on parlait d'émissions publiques, on peut saluer quand même que ce midi, nous sommes avec du public aussi dans le studio de 48 FM.
Bien, ben, donc rendez-vous 48 images au pluriel secondes.fr pour découvrir un petit peu, il y a le programme détaillé avec...
toutes les fiches des films, des invités, voilà, etc. Puis on peut le télécharger aussi en PDF. Avec cette année, on a fait un programme complet qu'on trouve dans différents points de. Ils sont disponibles dans différents points partenaires. Et puis on a fait une grille aussi plus légère de programmation qui permet de s'y retrouver plus facilement.
Et notamment, vous retrouvez ces documents-là chez les partenaires donc, du Festival Amande, la librairie La Lorgnette, le Bar L'Atelier et le Planning Familial 48.
C'est ça.
Voilà, comme ça, c'est dit. Impeccable. C'est maintenant la deuxième chronique. Alors vous restez avec nous, hein, vous allez pouvoir réagir à la suite. La deuxième chronique, juste après la virgule. Allez, c'est parti, Caroline.
Alors, on va parler de télé, faire un petit tour, mais un minuscule tour, hein, parce qu'il pourrait être très grand, mais il faudrait plus de l'heure de l'émission, des petites séries qui vont débarquer. Là, c'est le printemps, je me suis dit que c'était le moment de faire un peu le point. Il y a des petites choses qu'on aime bien dans ce studio qui vont revenir à la télé. Donc voilà, je pense que Guillaume pourra sûrement compléter mon tout petit choix de ce mardi. Alors d'abord, Canal Plus vient de dévoiler son premier teaser de la saison 3 du Bureau des Légendes, avec Mathieu Kassovitz. Hein, une vidéo qui met en scène Guillaume Debailly, alias Malotru, cet agent double de la CIA et de la France, qui, visiblement, dans cette troisième saison, sera à nouveau en très mauvaise posture. Il l'était déjà dans les épisodes d'avant, mais là, je crois que ça se complique encore. Alors, la date officielle de lancement n'est pas annoncée par Canal+, mais on peut imaginer, en tout cas c'est ce que fait le magazine Première, que le Bureau des Légendes prendra la suite de Versailles, qui vient de redémarrer, hein, la deuxième saison sur Canal, dans la case du lundi soir. Quand... Voilà, donc on peut imaginer ça, peut-être début mai, avant le Festival de Cannes. Voilà. Un petit mot sur une...
Une autre.
Sur une autre, voilà, une nouvelle... 13 raisons why, une série qui semble cartonner outre-Atlantique, avec un regard incroyablement mature et dévastateur sur les effets du deuil. Ça se passe chez les adolescents. C'est sorti vendredi dernier, les premiers épisodes sur Netflix, et ça cartonne outre-Atlantique. Alors, bien évidemment, allez voir ça, hein. C'est toujours intéressant de voir que ce qui plaît d'un côté, est-ce que ça va plaire chez nous. C'est quelque chose que tu connais, Dominique ?
Non, ça ne me dit rien.
Voilà, donc à découvrir, et puis si c'est bien, on y reviendra. Un tout petit mot sur la mythique Grey's Anatomy,
qu'on suit toujours.
Voilà, Hélène Pompeo a dit récemment que la saison s'arrêterait à son départ à elle, et que ça n'était donc pas encore fixé. Donc, pour les amateurs, alors que la saison 13 est diffusée actuellement, sachez que la 14e est en préparation et que ce n'est pas encore la fin.
Notez d'ailleurs qu'après après Grey's Anatomy, il y a Night Shift qui est diffusé, qui était déjà diffusé l'année dernière et qui est assez sympa.
Qui est plutôt sympa, ouais, dans les séries médicales.
Voilà, pour ceux qui aiment.
Et puis bien sûr, le grand retour bientôt, très vite, le 19 avril, de la deuxième saison de 10%, hein, une série qu'on avait beaucoup aimée dans ce studio l'année dernière. Alors je rappelle, hein, c'est l'histoire d'une agence d'agents, hein, l'agence ASK, qui s'occupe de stars et de comédiens.
Alors, a priori, il va y avoir du changement.
Alors, il va y avoir du changement. Alors déjà, la réalisation de la saison 1 a été faite par Cédric Lapiche, Lola Doillon et Antoine Garceau. Ce n'est pas le cas de la saison 2, hein, qui sera réalisée par Jeanne Herry, qui est réalisée, puisque c'est en boîte, qui est réalisée par Jeanne Herry, Antoine Garceau et Laurent Tirard. Bien sûr, du changement, puisque le patron est décédé à la fin de la saison 1, donc déjà le patron va changer.
Hein. Et a priori, il va mettre un peu le souk. Hein.
Voilà, donc le nouveau Hicham Janowski, un jeune patron millionnaire, qui avait un site de rencontre sur Internet et qui va investir chez ASK et donc apporter sa patte Voilà. Alors, bien évidemment.
Toute ressemblance.
L'intérêt, bien sûr, de la série, c'est les guest stars, hein, puisque chaque épisode est consacré à une ou deux stars du cinéma français qui jouent leur propre rôle. Alors, bien sûr, on retrouve les quatre agents, hein, qui ont fait le succès de la saison 1. Mais donc, parmi les stars de cette nouvelle saison, on va retrouver Virginie Efira, Ramzi Bedia, Fabrice Lucchini, Norman, Guy Marchand, Juliette Binoche et Isabelle Adjani. Julien Doré reviendra aussi dans 4 épisodes et Christophe Lambert fera une apparition. Alors, s'ils ont eu pour la première saison quelques difficultés à trouver des stars, pour cette seconde, ça s'est un peu bousculé au portillon.
Ouais, c'est pas mal quand même. Hein,
parce ouais, c'est
que,
pas mal. Ouais, ouais.
Bon, il n'y a pas les plus grandes, mais c'est pas mal.
Alors, Fanny Herrero, qui est en charge de la série, précise, nous avons eu même quelques appels du pied discret ce coup-ci. Bien sûr, et elle précise, ces stars permettent de créer l'événement, d'amener le glamour, mais c'est aussi une énorme contrainte, hein, au niveau du scénario, puisqu'il faut chaque fois réadapter. Alors, cette année, pour cette saison en tout cas, précise-t-elle, ils ont privilégié l'histoire et se sont ensuite appliqués à trouver l'actrice ou l'acteur qui convenait, alors qu'ils avaient fait l'inverse pour la saison 1. Donc cette fois, par exemple, nous parlions d'une comédienne iconique d'une 60aine d'années qui a traversé l'histoire récente du cinéma français, ce qui collait parfaitement avec Adjani. Et Dominique Besnéard lui-même précise que c'est lui qui a approché Isabelle Adjani au Festival d'Angoulême qu'il dirige. « Il nous fallait une icône, or elles ne sont que trois en France, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani et Catherine Deneuve. » Isabelle Adjani a accepté très rapidement de jouer son propre rôle. Voilà.
Très bien, très
voilà,
bien.
Voilà, Lucchini, pareil, hein, il avait adoré la première saison, donc il sait, il est très copain avec Besnéard, donc ça s'est fait tout naturellement. Et apparemment, c'est Jean-Louis Trintignant qui aurait soufflé le nom de Guy Marchand à Besnéard en lui disant « Il est de la trempe des Victorio Gassman et des Hugo Tognazzi, tu vas te régaler », ça a été le cas. Et alors, une saison 3 est déjà annoncée, alors que celle-là donc, n'a pas encore été diffusée. Et les candidatures spontanées de cette deuxième saison seront peut-être dans la troisième. Donc on parle de gens comme Charles Berling ou Gérard Lanvin. Des actrices comme Béatrice Dalle ou Sandrine Bonner qui pourraient venir compléter la liste de déjà nombreuses des stars qui ont joué dans cette série.
Tes fiches sont écrites de plus en plus grosses. Hein.
C'est... Oui, je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Je...
On dit que t'as peut-être.
Ça veut dire que je vieillis de.
Je sais pas, je sais pas. Bon, mais en tous les cas, on aura plaisir à.
Voilà,
à découvrir
le 19
tout
avril.
Ça. Très bien. Mais voilà, et puis donc d'autres séries à découvrir. On aura l'occasion d'en reparler. Et bien, une petite virgule et on parle pour notre fameuse chronique hashtag.
Hashtag.